各位收听的是
Radio France Internationale。
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir avec Pizemam de la rédaction cambodgienne.
Sosday Philippe.
Pour les exercices militaires conjoints entre la Chine et le Cambodge, les plus importants de l'histoire. Pour la rédaction roumaine, c'est Cristina Teaca.
Bunaseara.
Pour le second tour de l'élection présidentielle en Roumanie après-demain. Et Marcia Bechara de la rédaction brésilienne.
Boa noite.
Vous nous parlerez de tous ces événements organisés dans le cadre de la saison culturelle Brésil-France. Ce qui fait la une de l'actualité, ce sont donc ces premiers pourparlers de paix depuis plus de 3 ans entre Russes et Ukrainiens. Cette rencontre vient d'avoir lieu à Istanbul, en Turquie. Il a été question d'un cessez-le-feu, d'une rencontre Zelensky-Poutine, mais la seule chose de sûre, c'est cet échange de 1000 prisonniers de chaque camp. Pizet, malgré l'absence du président Vladimir Poutine, cette réunion a eu le mérite au moins d'avoir existé.
Oui, Philippe, absolument, car il s'agit de la première fois que les Russes et les Ukrainiens assis autour d'une table pour se parler directement depuis le début de la guerre en février 2022. Cette première entrevue a duré à peine 1h40 et semble très mal déjà engagée dès le départ. La délégation ukrainienne menée par le ministre de la Défense a accusé la délégation russe d'avoir formulé des demandes territoriales inacceptables.
Les Ukrainiens ont une priorité absolue, c'est celle d'un cessez-le-feu complet et inconditionnel.
Exactement. Quelques heures avant le début de la réunion, le président Zelensky a déclaré que la priorité absolue de Kiev était un cessez-le-feu complet, inconditionnel et honnête pour mettre fin au massacre et poser une base solide pour la diplomatie. Lors de la réunion coordonnée par le ministre turc des Affaires étrangères, la délégation ukrainienne a demandé expressément la tenue des négociations entre les deux chefs d'État des deux pays. Moscou a pris note de cette demande. Les deux parties se sont accordées dans les prochains jours sur un échange de 1000 prisonniers de chaque côté, une information confirmée par le chef de la délégation ukrainienne. C'est donc pas complètement un échec cette réunion, mais un premier pas très très timide.
Marcia, est-ce que ce feuilleton qui pourrait s'intituler « À la recherche désespérément de la paix » est suivi au Brésil, qui est le pays des telenovelas?
Ben, pas trop, Philippe. Du côté brésilien, on continue de suivre d'un œil distrait ces feuilletons russo-ukrainiens. Cette série rallonge qui oscille entre théâtre du boulevard et tragédie des bas étages, promesses en carton, rendez-vous manqué et grandiloquence diplomatique. Bien sûr, tout y est, sauf le bon début de négociations sérieuses. On croirait assister quand même à un mauvais Shakespeare version géopolitique où les acteurs s'écrient des sous en coulisses mais refusent d'entrer en scène ensemble.
Et Lula s'en est mêlé?
Ah oui, Monsieur a tenté une pirouette, convaincre Poutine de venir serrer la panse des Zelensky sur le Bosphore, peine perdue. Les maîtres du Kremlin a reculé dès que son homologue ukrainien l'a défié de venir en personne. Rédobessé, égo, froissé, il peut reporter à une date ultérieure, probablement fictive aussi. Roméo et Juliette, plutôt deux chefs d'État vexés qui préfèrent jouer à cache-cache diplomatique qui s'assoient à la même table. Leur destin semble pourtant scellé. Pendant ce temps, à Washington, les grands metteurs en scène autoproclamés, Donald Trump, bien sûr, rentrent dans la lumière. Rien s'y passera sans moi.
Dit-il le président américain. Cristina, à 1000 km d'Istanbul, à Tirana, en Albanie, se trouvait dans le même temps, aujourd'hui, donc, le président ukrainien, avec ses alliés européens, les dirigeants français, allemands, britanniques, polonais. Emmanuel Macron, d'ailleurs, estime que la Russie n'a pas envie de conclure de cesser le feu avec l'Ukraine et qu'il va falloir mettre une pression accrue pour l'y contraindre.
Quant au président ukrainien, il appelait ses alliés en réaction forte et des sanctions contre Moscou. De son côté, le chancelier allemand s'est félicité de la tenue même des négociations entre les Russes et les Ukrainiens, estimant qu'il s'agissait d'un premier signal tout petit mais positif. Il est clair que la Russie ne veut pas la paix, a déploré la chef de la diplomatie de l'Union européenne, tandis que la secrétaire générale de l'OTAN assuré que Moscou avait fait une erreur en envoyant à Istanbul une équipe de second rang. Volodymyr Zelensky a qualifié l'équipe envoyée par Moscou à l'Istanbul de pure façade. La diplomatie russe les traitait en retour de clowns. Le secrétaire d'État américain arrivé à Istanbul reconnaissait que l'équipe russe n'est pas au niveau qu'il espérait. Pour Marco Rubio, le massacre simplement doit cesser.
Parlez-nous du chef chef de la délégation russe qui a été envoyé à Istanbul?
C'est Vladimir Medinsky, connu pour ses positions ultra-patriotiques et révisionnistes sur l'histoire russe. Vladimir Medinsky, ancien ministre de la Culture et conseiller de Poutine, a dirigé la délégation russe à Istanbul. Medinsky a assuré jeudi que la Russie était prête à des possibles compromis, mais le Kremlin maintient ses revendications que l'Ukraine renonce à rejoindre l'OTAN, abandonne 4 de ses régions partiellement contrôlées par la Russie, en plus de la Crimée annexée en 2014.
Christina, j'ajoute que dans ce ballet diplomatique, Donald Trump affirme qu'il est prêt à rencontrer le chef de l'État russe dès qu'il sera possible d'organiser un sommet. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
This is Radio France International.
De Paris, RFI,
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Ailleurs qu'en Roumanie, le second tour de l'élection présidentielle a déjà commencé aujourd'hui. Après-demain se déroulera donc cette consultation, scrutée de très près après l'annulation du vote du 24 novembre, avec des suspicions d'ingérence russe en faveur du précédent candidat d'extrême droite, à savoir Kalin Georgescu, qui est très proche de Georges Simion, arrivé au deuxième tour. Ce nationaliste roumain, Georges Simion, est à Paris pour rencontrer l'eurodéputé d'extrême droite Marion Maréchal. Il se dit persuadé qu'il sera dimanche le prochain président de Roumanie. Alors, Cristina Teaca, il est le chef de l'Alliance pour l'unité des Roumains. C'est une formation ultra-conservatrice et eurosceptique, un parti politique d'extrême droite qu'il a fondé en 2019.
Âgé de 38 ans, Georges Simion a recueilli près de 41 des voix au premier tour du scrutin des 4 mai. Mais les sondages prédisent un duel serré au second tour face à son rival pro-européen de 55 ans, le maire de Bucarest, Nicușor Dan. À Paris, jeudi soir, il a accusé le président Emmanuel Macron des tendances dictatoriales, comparant la France à l'Iran, alors que Paris est accusé par son camp d'avoir soutenu l'annulation du scrutin du 24 novembre sur fond des soupçons d'ingérence russe. Un coup d'État qui a humilié le peuple roumain, a-t-il répété. Il fait d'ailleurs l'objet d'une enquête du parquet pour incitation à la violence, après avoir dit vouloir écorcher vif sur la place publique les responsables ayant évincé Călin Georgescu. Pour lui, la vague MAGA, du nom du slogan trumpien « Make America Great Again » est la seule chose qui sauvera l'Europe, dit ses fans de Donald Trump, ancien supporter ultra de foot, parfois qualifié de hooligan. Il a construit sa popularité sur un discours souverainiste, anti-l'immigration et farouchement critique envers Bruxelles.
Et aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron a dénoncé des ingérences dans les élections à venir en Europe, largement, mais notamment en Roumanie. Il estime, le président français, qu'elle sape l'intégrité des démocraties.
Nous voyons à travers nos élections en France, mais la Roumanie le vit en ce moment. La Moldavie l'a vécu il y a très peu de temps, que nous avons très clairement des menaces qui sapent l'intégrité de nos démocraties, qui minent leur résilience, a-t-il dit en ouverture d'un sommet européen à Tirana. En Pologne, les sites du parti centriste du premier ministre Donald Tusk étaient hors service vendredi en raison d'une cyberattaque à 2 jours du premier tour des élections présidentielle de dimanche. La Moldavie est victime chaque jour des ingérences russes, a expliqué le président français.
Oui, pour être clair, il y a élection en Pologne et en Roumanie. Et bien sûr, il en sera question sur RFI. Dites-nous, quel est l'autre candidat qui se retrouve en lice au second tour?
Nicușor Dan, indépendant, réformateur pré-européen, mathématicien de formation, diplômé de l'université Sorbonne et maire de Bucarest depuis 2020. Il a décidé, après le choc de novembre, de se lancer dans l'arène en espérant pouvoir incarner les renouveaux pré-européens. Une Roumanie honnête avec ses slogans, Nicușor Dan se veut l'homme du changement, sauf dans les soutiens à Kiev et l'engagement occidental.
Alors, je le disais, les Roumains de l'étranger peuvent déjà voter depuis quelques heures.
Oui, oui, oui. Plus d'un million d'électeurs roumains vivent à l'étranger. Le 4 mai, 60% des votants ont porté leur voix sur George Simion contre 25% pour son rival Nicu Jordan. Je suis allée ce matin à l'ambassade de Roumanie en France où il y a plusieurs bureaux de vote. Je restais ici entre 8h et 10h et pendant ce temps, j'ai rencontré des dizaines de Roumains qui veulent que la Roumanie reste européenne. Anna est venue voter pour une démocratie plus forte et s'assurer que la Roumanie reste sur la voie européenne, on l'écoute.
Am o singură ștampilă de pus pentru un viitor al României în continuare pe calea europeană și pentru o democrație mai puternică.
Une autre électrice, Adriana, 73 ans, rend visite à sa famille en France. Elle veut un président pré-européen, un homme honnête, intelligent, dont nous pourrons être fiers lorsqu'il représentera la Roumanie à l'extérieur du pays.
Corupția nu aduce niciun fel de beneficiu populației, aduce
beneficiu celor
care... Elle dit que la corruption n'apporte aucun bénéfice à la population, elle apporte un bénéfice à ceux qui gouvernent, explique elle après ce que je l'ai demandé si elle souhaitait changer quelque chose dans le pays et quoi précisément. On écoute aussi Mihai, un autre électeur qui a voté aujourd'hui à l'ambassade de Roumanie en France.
Să facem o alegere foarte importantă, o perioadă foarte...
Que pense Mihai?
Pour Mihai, la Roumanie traverse une période très, très difficile. Il craint qu'à l'heure actuelle, les enfants de ceux qui ont combattu il y a plus de 30 ans lors de la révolution de 89 qui a conduit à la chute du communisme et du régime Ceaușescu, ces enfants sont prêts à renoncer très, très, très facilement aux droits obtenus à l'époque. Je lui demandais ce qu'il fallait changer dans les pays. Il a répondu que l'éducation, il a même répété ces mots. Quatre fois.
Éducation, 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 éducation.
Et voilà donc pour cette élection qui a commencé, qui se terminera dimanche en Roumanie pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, que vous suivrez bien évidemment, Christina Teaca de la rédaction roumaine de RFI et l'ensemble des rédactions de votre radio. Au Cambodge maintenant, a lieu depuis plusieurs jours des manœuvres militaires conjointes entre les armées cambodgiennes et chinoises. Pisemam, il s'agit des exercices militaires les plus importants qu'ait connu le Cambodge ?
Oui Philippe, jusqu'au 28 mai, ces manœuvres militaires impliquent des matériels chinois de pointe, dont de l'artillerie, de chars d'assaut, des drones, des navires de guerre et des chiens de combat robotisés. Près de 900 militaires chinois et plus de 1300 soldats cambodgiens prennent part à ces exercices baptisés Dragon d'or. Ils se tiennent lieu à la base navale de Riem, au sud du Cambodge, rénovée récemment avec l'aide de la Chine et tout juste inaugurée au début avril. Ces exercices ont pour objectif de renforcer les liens de coopération dans le domaine de lutte contre le terrorisme et des opérations humanitaires. Ils sont présentés comme les plus importants par rapport aux années précédentes en termes de personnel et d'équipement. Par ailleurs, le navire de guerre chinois Changpaishan a été amarré à la base navale de Riem depuis lundi.
Alors ces manœuvres peuvent-elles être considérées comme un signe de rapprochement en termes de sécurité et de défense entre la Chine et le Cambodge ?
Oui, en effet, parmi les pays de l'ASEAN, le Cambodge est un des seuls pays qui s'affirme de façon de plus en plus évidente son alignement avec Pékin. Mais selon Yong Pov, secrétaire général de l'Académie royale du Cambodge, le Cambodge n'a pas à craindre de construire le lien avec tout le monde car l'époque de la guerre froide est terminée.
សម័យកាលបច្ចុប្បន្នរបស់ពិភពលោកវាមិនស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់
Que vous a-t-il dit?
Alors, il dit que nous ne sommes plus dans la guerre froide. Le Cambodge s'ouvre à tout le monde et prêt à coopérer avec toutes les puissances sans aucune contrainte idéologique. D'autant plus que le pays ne doit s'empêcher d'avancer ou de progresser en termes de capacité technique pour se défendre à cause des craintes de tous les côtés. Cela peut porter préjudice à son autonomie.
Pourtant, des exercices de ce genre, Pisemam, le Cambodge n'en a vraiment jamais organisé avec les Occidentaux.
Oui, c'est vrai, Philippe. Selon M. Sowanara, professeur de sciences politiques, le Cambodge doit faire mieux pour assurer les autres partenaires occidentaux de sa neutralité. La Chine est le seul pays avec qui le Cambodge accepte d'organiser ses manœuvres militaires de cette ampleur.
Aidez-nous à comprendre.
Alors, il dit que cela fait depuis 2017 que le Cambodge organise ses exercices avec la Chine, les exercices ayant pris de plus en plus d'ampleur. C'était d'ailleurs en 2017 que le Cambodge a refusé d'organiser ce genre d'exercice avec les États-Unis et l'Australie. C'est normal donc qu'une partie d'opinion nationale et internationale pense que le pays privilège la relation militaire avec les géants chinois plutôt qu'avec les Occidentaux. Ce n'est pas par hasard, Philippe, que la Chine a injecté des millions de dollars pour construire la base navale de Riem, car elle se trouve à la porte de la mer de Chine méridionale. En principe, le Cambodge va recevoir deux navires de guerre de la Chine à la fin de ces exercices. Selon Ouvera, président de think tank cambodgien Forum pour le futur, la Chine veut montrer ses muscles et renvoyer le message aux pays de la région qu'elle est une superpuissante.
Pizemam de la rédaction cambodgienne de RFI. Il y aura 300 événements culturels organisés en France avec le Brésil tout au long de l'année. Le Brésil qui est en effet l'invité d'honneur de ces manifestations qui auront lieu dans 50 villes. Alors Marseille, Metz, La Rochelle, Grenoble, Rennes ou encore Deauville, Lyon, Nantes, Toulouse ou encore Bordeaux, en tout cas partout. Marcia, dites-nous en plus.
Oui, on est un peu partout en ce moment en France. Il y a même des rumeurs que Paris-Plage va se transformera en Copacabana 2025. Alors que le Brésil et la France s'apprêtent à célébrer 100 ans des relations diplomatiques. Cette saison croisée a été pensée comme bien plus qu'un programme culturel, un laboratoire d'échange, une fabrique de liens entre les artistes, chercheurs, villes, jeunesse, une manière concrète de faire ensemble, Philippe.
Alors, au Festival de Cannes, qui vient de commencer, un film brésilien vise la Palme d'Or déjà.
Oui, et en effet, notre ministre de la Culture, Margaret Menezes, a fait le déplacement pour porter la voix d'un cinéma qui raconte, qui existe, qui invente. Le Brésil est aussi l'invité d'honneur cette année du marché du film à Cannes. On écoute la ministre de la Culture du Brésil.
Realmente um momento único, né? Primeira vez que o Brasil.
Que dit-elle?
Elle a dit que c'est véritablement un moment unique. C'est la première fois que le Brésil est l'invité d'honneur du marché du film à Cannes. Ça lui permet d'amplifier la visibilité du cinéma brésilien à l'international. La ministre a accompagné cette année d'une délégation de 400 personnes, quand même à Cannes, composée d'artistes, producteurs, sociétés de production, agents du secteur. Elle a conclu en précisant que cette initiative a commencé en 2023, un moment où l'audiovisuel brésilien s'est relevé des retards et des destructions causées notamment par les années Bolsonaro.
Voilà pour le cinéma. Parlons théâtre maintenant avec, dans quelques semaines, le Festival d'Avignon.
Oui, dans les off, c'est le laboratoire de théâtre vivant. Ce sont 11 compagnies brésiliennes qui électrisent les scènes, des créations qui viennent de plusieurs régions du pays, portées par des artistes qui interrogent leur temps de forme hybride, indocile, traversée par les héritages afro-brésiliens, par les féminismes, par l'écologie, des luttes des peuples autochtones. Harold David, co-président de l'association AFC qui organise les off d'Avignon, a fait les paris de ses 11 compagnies brésiliennes. Je l'ai rencontré cette semaine à la Maison de l'Amérique latine lors de la conférence de presse du off. On l'écoute.
Mon souhait est que ce ne soit pas juste voilà, une fois, mais que ça crée une vraie dynamique d'échange, de coopération, et aussi que ça puisse permettre de mieux faire connaître le festival auprès des programmateurs et professionnels brésiliens qui ne viennent pas encore au festival, mais qui du coup, parce qu'il y aura des compagnies qui vont y venir de leur pays, auront aussi envie de venir au festival et viendront découvrir des compagnies françaises pour les programmer ensuite au Brésil.
Christina Teaca, autre événement avec ce qui se passera à la Biennale de la Danse de Lyon, et puis à Saint-Malo qui accueillera le festival Étonnant Voyageurs.
Oui, des écrivains et des écrivaines qui viennent des marges, des favelas, des terres autochtones, des mouvements queer, féministes, pour dire le Brésil autrement. Il y aura aussi de la fête, Philippe, un grand bal brésilien qui va se tenir à Paris le 5 juillet, fera sans aucun doute résonner les couleurs du carnaval dans les rues parisiennes. Ce n'est pas un coup d'éclat, c'est un échange et c'est carrément une joie d'en faire partie.
Parlons-nous maintenant de ces bibliothèques qui s'ouvrent au Brésil.
Une trentaine d'entre elles proposent des expositions. Ce ne sont pas des bibliothèques, ce sont des PB, ce sont des bibliothèques françaises qui s'ouvrent à cet invité d'honneur, le Brésil. On y croise des voix fortes de la jeune génération littéraire brésilienne, Julien Fuchs, Jefferson Tenório, Marcelo Quintanilha, la grande Maria Fernanda Cândido, rend hommage à Clarice Lispector, à la médiathèque Marguerite Duras, avec Sonia Rubinsky au piano. Et jusqu'en septembre, les artistes brésiliens investiront les lieux emblématiques comme les Grands Palais, les Panthéons à Paris, sans oublier les musées d'Orsay, mais aussi les musées des Beaux-Arts de Nîmes, les musées des Confluences de Lyon, ou encore l'abbaye du Mont-Saint-Michel.
Ou encore Deauville, où franciscaine, hier j'y ai vu une exposition consacrée à l'œuvre, à ces magnifiques photos de Sebastião Salgado.
C'est moi qui ai fait l'émission pour la rédaction Brésil avec un très joli vidéo.
Eh bien écoutez, merci à vous. C'était Accent du Monde sur RFI. Retrouvez bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale.